faut bien comprendre qu'il y a toujours deux mouvements dans le point de vue philosophique, et spécialement dans la métaphysique, puisque c'est dans la métaphysique que la philosophie est la plus pure. La science ne pénètre pas dans la métaphysique, tandis que la science vient lorsqu'il s'agit de la philosophie morale, de la philosophie artistique, de la philosophie politique, de la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant. C'est très important de voir ça. Il y a une rivalité entre science et sagesse, alors qu'il devrait y avoir une unité. La science est ordonnée à la sagesse. Et c'est ce que le Saint-Père le rappelle dans son encyclique. Pour un chrétien, pour un théologien, la science est ordonnée à la sagesse. Or, il y a aujourd'hui une attaque très nette contre la sagesse. Ça ne se dit pas ouvertement, mais ça se vit. Il ne faut plus parler de la sagesse. Il n'y a plus la science. Parce que la sagesse, elle aboutit à Dieu. Alors ça, c'est embêtant. La sagesse, elle nous met en présence du premier. Et le premier, c'est Dieu. Princeps, le premier, premier principal. Or, c'est très net que par rapport à toute la philosophie pratique, par rapport à la philosophie de la nature, par rapport à la philosophie du vivant, la science s'est développée comme rivale de la théologie, de la sagesse, pour exclure la sagesse. La sagesse est plus ancienne, elle a été, c'est vrai, un moment très exalté, et peut-être trop exalté, c'est possible. Il y a des torts qui peuvent très bien exister. Alors qu'il y a deux voies différentes. Je suis de plus en plus convaincu que c'est ces deux voies de l'intelligence rationnelle et l'intelligence ut intelligence comme intelligence. La science développe l'intelligence rationnelle et scientifique. La loi, ce sont les lois que la science connaît, et la sagesse essaie de découvrir les principes. Tant qu'on n'a pas découvert la différence entre la loi et le principe, on n'a pas découvert la différence entre la science et la sagesse. Vous découvrez la différence. La loi est une relation nécessaire qui s'impose, mais c'est une relation. Tandis que la sagesse atteint un principe. Elle atteint un principe selon la matière, selon la forme, selon l'efficience, selon la finalité. Et c'est selon la finalité que la sagesse peut être parfaitement elle-même, puisque la fin est cause des causes, principe des principes. Voyez, il faut donc tout le temps revenir à ça. Ça met du temps. Ça met du temps parce que notre culture moderne est une culture scientifique. À base de science, à base de loi. Alors, il faut arriver à découvrir ce que c'est, de voir petite et grandiose de la sagesse. Elle commence par le jugement d'existence, ceci est, et elle se termine, Dieu existe. Il y a un Dieu. Donc, elle enveloppe la sagesse enveloppe la science, mais elle ne la détruit pas. Elle est très heureuse, la science, la sagesse, mais elle s'en distingue. C'est une autre voie. Et c'est une autre voie tout de suite, dès le début, la différence entre expérience et expérimentation. Vous voyez, sont tous la différence entre loi et principe. Alors, il faut constamment revenir sur ces points tout à fait premiers qui ont été très débattus. Et pour l'intelligence humaine, ces deux claviers, le clavier rationnel, loi, le clavier sapiential, principe. La découverte de l'être et des transcendentaux, ce qui est, et la découverte des lois. La découverte de la substance, c'est la découverte du principe selon la forme de ce qui est. Retenez bien cette formule qui, petit à petit, pour vous, prendra sa signification plénière. Au début, vous la répétez, et puis vous ne voyez pas très bien ce que ça veut dire. La substance, première recherche en métaphysique, c'est-à-dire la recherche de ce qui est premier dans ce qui existe, dans ce qui est premier selon la forme. Parce que nos recherches des principes se font par l'intelligence qui recherche ce qui est premier. Le principe, c'est ce qui est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux rien chercher. Je ne trouve rien. Ce au-delà de quoi je ne trouve rien. Mais prenez l'image du sourcier. Quand on cherche une source, on la suit. On a vu ça quand on était jeune. On s'est mis à chercher des sources. Alors on la suivait, puis à un moment donné, on ne pouvait pas aller au-delà. Il n'y avait plus rien. Les choses seraient curieuses. La source et les principes. On ne peut pas aller au-delà. Et tant qu'on n'a pas découvert le principe, on n'a pas découvert la source. Source, principe. Source a l'avantage d'être métaphorique, alors c'est plus facile à comprendre. Mais il faut que le principe, ce soit pour vous une source. Or, la plupart du temps, principe pour les gens d'aujourd'hui, c'est la loi. Et la loi n'est pas source, c'est un canal. Alors, on l'utilise de façon merveilleuse, le canal, parce que on double les fleuves du canal. C'est plus rapide, c'est plus économique, c'est mieux. Mais c'est moins intéressant. C'est pas très drôle de suivre une canalisation quand tu es en voiture. On suit la calèche. Tandis que de suivre un fleuve ou à pied, ou c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'autoroute qui nous conduise aux sources. Les autoroutes conduisent aux canalisations. C'est beaucoup plus rapide. Dans le Valais, connais bien le Valais. Quand je suis arrivé à Fribourg, il y avait encore les grandes chutes d'eau dans le Valais. Puis on a tout canalisé. Alors on a mis des tuyaux. Et la source disparaît. C'est vraiment beaucoup plus commode, parce que on peut, alors à ce moment-là, utiliser la force du jet d'eau. Tandis qu'on ne pouvait pas l'utiliser quand ça jaillissait. Vous voyez, du point de vue pratique, du point de vue utilitaire, c'est très intéressant de voir ce passage de la beauté d'une source, tandis que vous ne restez pas en extase devant la beauté d'une canalisation. C'est très différent. C'est beaucoup plus pratique. Mais évidemment, tout le charme de la source, eh bien, le philosophe, il veut reprendre le charme de la source. C'est ça que veut prendre le philosophe. Il veut voir le jaillissement de l'être. Il veut saisir ça. Donc il saisit des principes. Je crois que c'est la première des choses qu'on doit arriver à saisir. Vous voyez, le positivisme d'Auguste Comte a confondu principe et loi. C'est la grosse confusion du positivisme. Tout principe se ramène à une loi. Alors, pensez au jet d'eau et à la canalisation. C'est intéressant de voir ça, parce que ça dit, tiens, oui, c'est vrai. Le principe, c'est quelque chose de vivant. Le principe n'est pas abstrait. Il est saisi comme principe. Et donc il n'est pas abstrait. La loi est abstraite. Tandis que le principe, non, il est saisi comme principe, comme source. Et on veut toujours, aujourd'hui, c'est effrayant, on n'accepte plus les sources. Alors, on les accepte quand on s'aperçoit que, ben oui, la source, ça jaillit toujours. On ne veut que la canalisation. Parce que, évidemment, la canalisation, on s'en sert grâce au robinet. Tandis que de la source, on ne s'en sert pas. Oui, on peut aller se laver les mains à la source. Mais c'est en passant. Vous ne la possédez pas. L'avoir et l'être. Les canalisations, on les a. Les sources, elles existent. Avoir et être. Et je crois que c'est très important de saisir cette différence entre science et sagesse. La philosophie est une sagesse. Elle doit être sagesse. Elle n'est pas science, non. Elle est science dans la mesure où elle devient historique. Alors, dans la mesure où l'histoire est une science. Mais pour un matheux, l'histoire, triste science. Triste science. Et c'est vrai. Parce que c'est une science qui est dépendante des documents. On retrouve un document, tout est changé. On retrouverait le crâne d'Adam. Tout est changé. Parce qu'on va plus loin. Et c'est comme ça que les lois changent. Historiquement, il y a des lois qui étaient posées comme des lois il y a 100 ans qui ne le sont plus maintenant. Pourquoi ? La loi, ça devrait exister. Non, non. La loi, c'est une relation. Alors elle change. On a redécouvert, on a été plus loin. Et dans dominicain, qui était merveilleux comme chercheur et comme chercheur des fouilles. Et je me souviens, je m'intéressais toujours énormément de parler avec lui. parce qu'il y a quelque chose d'analogue au point de vue philosophique. On cherche toujours, et on va chercher toujours le principe, et plus on le saisit, plus on le change. C'est sûr. Vous savez, prenez ça quand vous êtes dans une grande montée. Vous vous asseyez au bout de 100 mètres et vous regardez le paysage. Puis vous repartez. Vous arrêtez 1000 mètres plus loin. Le même paysage est tout autre. Vous allez en avion, le même paysage à 10 000 mètres. Ça, c'est le progrès de la connaissance scientifique. On creuse toujours. Le principe est le même quand je le saisis au point de départ dans la source. Et puis quand j'ai creusé. La substance, elle n'est pas loi, elle est principe. Principe de ce qui est selon la recherche de la forme. La substance, elle est première dans l'ordre de la détermination de l'être. Toute détermination de l'être dépend de la substance. Et c'est ça qu'il faut arriver à saisir. Détermination. La quiddité des choses sensibles. Le TNA9. Parce qu'en grec, ça sonne mieux qu'en latin, quiditas. En français, on répète quiditas. Même Sartre emploie quiddité. J'ai retrouvé dans Sartre le mot quiddité. Je trouvais ça invraisemblable. TNA9. Le TNA9 d'Aristote, Sartre l'emploie. Tellement c'est connaturel à nous. Chercher la quiddité des choses sensibles. C'est la définition. Les définitions, oui. Tout le monde cherche des définitions. Même les imbéciles. Et c'est pour ça qu'ils ont Larousse. Qu'est-ce que dit le petit Larousse? Ah, définition. Et de tout ça, apprenez par cœur Larousse. Vous ne serez pas philosophe. Non, vous aurez des définitions parfaitement. Ah, c'est le langage. Mais la philosophie, c'est pas le langage, c'est la réalité. C'est au-dessus du langage. La culture, c'est le langage. Mais la philosophie, la métaphysique, elle est la même pour un Américain que pour un Français. Elle est la même pour d'un Grec. Il n'y a plus de différence entre la culture d'Aristote et la nôtre maintenant qu'entre un Français et un Américain. Il n'y a plus de différence entre notre culture actuelle française et celle d'Aristote. Alors, si on est uniquement au niveau de la culture, on dira, mais la philosophie d'Aristote, elle était très intéressante de son temps. Saint Thomas, c'était très bien pour le Moyen-Âge. Mais tout est changé. La culture a changé. Mais est-ce que la nature humaine a changé? Est-ce que le monde a changé? Est-ce que le soleil a changé? Est-ce que la lune a changé? Est-ce que les étoiles ont changé? On saisit ce qui est. C'est ça qui est important au point de vue métaphysique. Donc la métaphysique, elle est une unité entre l'Europe et l'Amérique. Aujourd'hui, on cherche au contraire les divisions. C'est ça qui est extraordinaire. On cherche l'unité de l'Europe en sept contrats de l'unité des États-Unis. C'est petit. C'est très petit de faire ça. Parce que c'est au niveau culture. Ce n'est pas au niveau de la nature humaine et de la finalité de la nature humaine. Et on essaie, au point de vue métaphysique, de retrouver la source commune, la même source, le même Dieu pour un Américain que pour un Français. Si c'est le même Dieu qu'on adore, il y a tant de possibilités de s'entendre. Évidemment, il faut monter assez loin, hein, pour monter jusqu'à Dieu. Tandis que si je regarde le point de vue technique, il y en a un qui est beaucoup plus avancé que l'autre, et donc c'est une course de compétition constante. La forme des voitures, les moteurs d'avion, c'est une compétition. On a inventé quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que dans les voitures, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on invente. Quelquefois, c'est tout à fait secondaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'est une auto. C'est tout à fait secondaire, c'est pour celui qui s'achied. C'est très secondaire, mais ça frappe l'œil. C'est nouveau, c'est étonnant. Oui, on prend un peu de recul en métaphysique, on prend du recul par rapport à la culture. Et on voit ce qui est plus profond que la culture, ce qui est comment. Ce n'est pas ce que l'homme a fait. La culture, elle est faite par l'homme. Donc, elle me conduit à l'homme. Elle est faite par l'homme et elle me conduit à l'homme. Tandis que si je vais plus loin, je cherche ce qui est, qui n'est pas la culture. Ce qui est, je découvre Dieu. Et je découvre ce qui peut me finaliser. La culture ne peut pas me finaliser. Parce que l'homme, comme l'homme, ne peut pas me finaliser. Ce qu'a fait l'homme est très intéressant, c'est très beau, mais ça ne me finalise pas. Donc ça ne m'agrandit pas. Ça me laisse à ma taille. Alors, très bien, pendant un certain temps, ça paraît parfait, mais dès que j'arrive à un âge, 35 ans, 40 ans, il faut découvrir ce qui peut me finaliser. Est-ce que l'homme peut me finaliser? Posez-vous la question. Est-ce que la culture peut me finaliser? Non. Elle est de l'ordre du comment, très utile de l'ordre du comment, mais elle ne me finalise pas. Or, ce que je cherche, c'est ma fin. Quelle est la fin de l'homme? Ce pourquoi l'homme est fait. Ce qui lui permet d'être. C'est très important, ça. Ça met du temps, je sais très bien. Ça met du temps à le découvrir. Mais c'est capital. Donc, la substance, ce n'est pas une loi, c'est un principe, une source. Et dans la lumière de la substance, alors, je vois tous les prédicaments, toutes les déterminations de l'être. Et la première détermination, c'est la qualité. La qualité manifeste ce qu'est la substance. Pas toutes les qualités, mais la qualité dans mon corps, la physionomie. La physionomie des yeux exprime ce qu'est de plus profond en moi. Mais mon regard, si profond qu'il soit, ne découvre pas la substance, mais la manifeste, la figura, la figure. Oui, dans un paysage, ce qu'est la figura, ça exprime quelque chose de la nature. Et puis, la qualité la plus profonde, oh, c'est l'intelligence. c'est pas la figura. Je vois des gens qui ont une figure parfaite, mais leur intelligence n'est pas à la hauteur de leur figure. Alors, on a une désillusion, on est attiré par la figure, il me semble si belle, si intelligente. Et puis, on gratte un petit peu. Il n'y a rien derrière. C'était un feu d'artifice. Oui. Et alors, quand on a découvert la substance, on reprend toutes les déterminations de l'être, toutes les déterminations qualitatives. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? La qualité, pour bien savoir ce que c'est que la qualité, il faut regarder la qualité relativement à la substance. La qualité est toujours quelque chose de second. Jamais premier, la qualité. Il y a les qualités sensibles et les qualités spirituelles. L'intelligence est une qualité spirituelle. Ma volonté est une qualité spirituelle. Ma figura est une qualité sensible, qui manifeste à l'extérieur ce que je suis. C'est très important, évidemment, la figura. Il n'y a pas que les qualités, il y a aussi la quantité. Il y a des gens, des demoiselles, qui ont la phobie de la quantité. Il faut surtout... Je ne dépasse pas tel poids. Après, je serai un crocodile. Tandis que je préfère être un moineau. Alors, la quantité vue du côté de la substance, c'est accidentel. Je sais bien, je suis gros. C'est un vieil atavisme, mon grand-père était comme ça. C'est pas étonnant, il retrouve son petit-fils dans la grosseur. C'est peut-être pas trop drôle, parce qu'il y a 100 ans, on faisait beaucoup moins d'attention à la grosseur. Tandis que notre monde est très sensible à la quantité. Très sensible. Et la quantité, ça joue un rôle très important. La quantité me donne la substance individuelle, hein, l'individu. Je suis un individu. On s'en aperçoit quand les gens vous marchent sur les pieds, ils disent « Vous ne respectez pas l'individu. » C'est vrai, parce que les doigts de pied, c'est l'individu. C'est pas mon intelligence quand même qui est dans les doigts de pied. C'est pas mon intelligence, c'est mon individu. Mais quand même, mes doigts de pied, ça m'appartient. Quand on les coupe, ça va pas très bien. Vous savez, c'était l'exemple classique de la chartreuse. Personne qui pénètre. Alors, on a fait une fausse chartreuse pour visiter, pour calmer les imaginations. Alors, le père, faisant visiter la chartreuse, et toute espèce de gens viennent visiter. Ils vont, voilà, le lit type du chartreux. Hors commerce, le lit livre type, parce que ça ne se vendrait pas bien si on mettait livre type du chartreux. Je crois que pas beaucoup de personnes dans le monde se jeteraient pour l'acheter. Alors, quelqu'un dans la foule pose la question, mais c'est le même lit pour tout le monde. Toujours la même taille. Et alors, si on est très grand, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il répond, comme ça, et on lui coupe le pied. Je trouve ça très bien pour voir ce que c'est que l'individu. L'individu, il a une taille. grosseur, c'est la quantité. Il y a des gens qui traînent un petit tonneau avec eux. Il faudrait bien que le tonneau s'aplatisse. C'est quand même mon petit tonneau. C'est mon corps. Ça fait partie de mon corps. C'est la quantité. Et j'ai beau essayer comme je veux de maigrir le plus possible. Attention, il y a un moment type. Les médecins le disent. On maigrit tellement qu'on ne devra plus revenir à la taille avant. C'est curieux, tu vois, ça. L'individu, ça colle à ma peau. C'est moi. Mais l'individu, si je le regarde par rapport à ma substance, je vois que c'est ma substance dans la quantité. La quantité. Ah, je vois très bien la différence entre quantité et qualité. Je le vois très bien, surtout par rapport au vin. La qualité du vin ou la quantité de la piquette. Vous allez avoir autant que vous voulez sur de la piquette. Ça, vous en aurez autant que vous voudrez. Vous pourrez vous saouler si vous voulez. Tandis que c'est qualitatif. Oh, une bouteille de très bon vin, de la très bonne année, de la meilleure année, de meilleure crue. Qualité. Vous voyez, qualité et quantité. Ça, c'est des gens qui sont très sensibles à la différence de qualité. La quantité, c'est notre individualité. Notre individualité est surtout marquée par la quantité. Surtout quand on est en avion. Parce qu'il y a les places qui sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde a la même grosseur, la même quantité quand on monte en avion. Le très grand, le très gros, le petit. Alors vous êtes à côté de quelqu'un qui déborde le ciel. Il n'en peut rien. Il a payé une place. Il a payé une place comme celui à côté qui était juste. Malheureusement, il y a cette bonbonne entre deux. Perdon racontait toujours cette histoire d'un grand prédicateur, très, très connu, un dominicain. Vous pouvez tous payer. Alors, mais il était très strict. Et quand on commençait la prédication, il fallait que ce soit le silence. Alors, il y avait quelqu'un d'important qui était arrivé en retard. Et donc il y avait un siège, avant c'était comme ça, avait son siège à l'église. Et alors quand elle arrive en retard au début du sermon, le sermon étant commencé, alors elle veut regagner sa siège. Alors le prédicateur s'arrête, dit « Toi, j'attends que la bonbonne s'assure. On voit très bien ce que c'est que la quantité. Et alors, quand la quantité passe avant la qualité, c'est effrayant. Or, dans le monde commercial, la quantité passe toujours avant la qualité. La quantité a un privilège extraordinaire dans notre monde d'aujourd'hui, bien plus que la qualité. Il faut être sensible à ça, parce que quand on n'est plus sensible à la qualité et qu'on se laisse prendre par la quantité, c'est désastreux. C'est évident qu'on se ressent en avion quand à côté de vous, vous avez une matrone, qu'il faut de la place. Là, vous faites tout petit, surtout si on est religieux, on se fait tout petit, le plus petit possible, il faut laisser la place. Alors, on subit pendant tout le voyage, pendant 10 heures d'avion, on subit ça. Alors, on comprend mieux ce que c'est que la quantité. C'est un avantage. Il faut comprendre la quantité. La quantité, on est sensible à la quantité. Très sensible à la quantité. Vous voyez, l'avion, on monte très haut. Et la quantité se dilue. C'est très curieux. Il faut être proche. Le nez sur le mur. Alors le mur, c'est vraiment un mur. C'est la quantité, le mur. Eh bien, qualité et quantité proviennent de la substance et expriment la science différemment. On a une vision de la substance de l'âme, hein, parce que si on a un corps très volumineux, il est quand même mon corps. Donc mon âme informe cette quantité. Ma substance informe cette quantité. C'est quelque chose de moi. Alors, oui, c'est pour vous montrer que la substance, comme elle est principe, elle règne sur mes qualités, sur ma quantité. Elle règne sur mon activité, sur mon mouvement, ma course, mon agilité, tous les accidents, la substance règne. Alors, il y a ceci de particulier, c'est que l'individu, qu'est-ce que c'est que l'individu ? L'individu, c'est une quantité déterminé par la substance, mon individualité. Mon individualité, elle est dans tout mon corps, jusque mon petit doigt, mon individualité. Et c'est la substance qui fait ça, mais à travers la quantité. Alors, il faut distinguer substance et individu. C'est pas la même chose du tout. La substance est principe d'être. L'individu est la manifestation de ce principe d'être à travers le corps, à travers la quantité. La quantité, c'est en moi ce qui me rend divisible. On peut me couper le bras, je me souviens. Le philosophe de Lausanne, que je connaissais bien, et que j'aimais beaucoup. Et il a été obligé, puisqu'il y avait la gangrène qui commençait, de lui couper le bras. Alors il me faisait la philosophie du philosophe auquel on a coupé le bras. Et c'était très astucieux, parce qu'il y a une expérience que je n'ai pas, j'ai mes deux bras. Alors, je n'ai pas l'expérience du bras coupé. Alors, il me disait, c'est très curieux, combien la quantité m'appartient, combien je fais le deuil de mon bras. Il fait partie de moi, il n'est plus là. Il n'est plus là. Perdu. Il y a une privation. Alors, il me disait, c'est intéressant du reste, il me disait, par là, j'ai le sens de la privation. Ça me donne le sens de la privation. Oui, on a le sens de la privation quand on a perdu une chose importante. Alors, on est privé. Mais le sens de la privation par rapport au corps. Combien le corps est mien. Et combien mon corps est mien. Tel qu'il est, complet. L'individu, c'est la totalité de la quantité qui est mienne, de ma quantité. Mais l'individu n'est pas la personne. L'individu, c'est mon corps. Et mon corps, quant à sa quantité. Évidemment, la qualité intervient dans l'individu, mais c'est la quantité avant tout. C'est le poids, c'est la grandeur qui fait l'individu. Et il y a quelque chose d'ultime qu'il faut regarder dans la substance. Il a été développé beaucoup ensuite avec la personne. La substance, elle peut exister par elle-même. C'est la subsistance. Subsister par soi-même grâce à ma substance. Ma substance me permet d'avoir mon être. Et à ce moment-là, ma subsistance, c'est tout. C'est pour ça que la subsistance va appeler une autre étude que la substance. C'est le fait de subsister par soi-même. Et là, on va retrouver cette nouvelle étude qui est la seconde partie de la métaphysique. La métaphysique de l'homme. La première étude, c'est la substance et les accidents. Une année, l'année dernière, on a vu ça, c'est la substance qui règne sur les accidents. C'est la substance qui règne sur l'individu. C'est la substance qui me permet de subsister, c'est-à-dire d'être moi-même. La substance veut exprimer ça, c'est que c'est moi, je suis. Quand vous dites « je suis », c'est vous regardez la substance première qui est en vous. Et vous prenez tous les accidents. Je suis de telle manière. Donc, c'est non seulement l'individu, mais ça revient aussi à l'être. C'est mon être. Mon être, c'est mon âme. Et c'est mon âme informant tel corps. Et dans cette information tel corps, l'individu apparaît. Et cet individu manifeste de telle manière qu'on est, qu'on existe. La substance demande d'exister, subsistance. Et on comprend que la recherche de la substance comme principe de toute détermination, comme principe selon la cause formelle, demande une autre étude, c'est d'étudier ce pourquoi nous sommes substance, ce pourquoi nous sommes hommes. C'est très bien de découvrir mon intelligence, de découvrir ma volonté, de découvrir mon poids, ma qualité, c'est très bien, mais pourquoi ? Alors, c'est cette seconde partie, c'est ça que nous devons voir cette année-ci, pourquoi la substance ? Pourquoi suis-je grand ? mince. Pourquoi? C'est la grande question, ça. C'est le point, la question de la finalité. Et c'est la seconde partie de la métaphysique. La première partie de la métaphysique, c'est de découvrir la substance, la détermination principale, première, et de voir toutes les autres déterminations en dépendance de celle-là. Et puis, de voir que cette substance, elle est faite pour subsister. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, la substance. C'est un principe d'être qui est. Et pour comprendre parfaitement ce que c'est que cette réalité que je suis, il faut me demander pourquoi j'existe. Pourquoi je suis un être intelligent, capable d'aimer, un être qui a telle manière d'être. Pourquoi? Chercher la finalité propre. C'est les deux grandes causalités de l'être. L'être est déterminé, substance. L'être est finalisé, acte. L'acte, ce sera la finalité de l'être. Et pour cela, je vois que, on l'a déjà dit, il n'y a pas de cause matérielle de l'être. Il n'y a pas de cause efficiente de l'être. L'être se ramène à la recherche de la détermination et de la finalité. Ça, c'est aussi très important de comprendre qu'au niveau de l'être de ce qui est en tant qu'être, donc au niveau de l'être pris formellement comme être, vous n'avez que de recherche. En métaphysique, vous n'avez que de recherche. Au fond, vous avez, on pourrait dire, en métaphysique, une métaphysique de la substance, une métaphysique de l'acte. L'acte exprime ce pourquoi je suis. C'est ce qui m'actue. C'est ce qui m'achève. Ma fin, la découverte de ma fin, ce pourquoi j'existe en tant qu'être, dans mon être, ce pourquoi je suis la substance, détermination. Mais les deux déterminations, comprendre qu'il n'y a pas de cause matérielle de l'être. Il n'y a pas de cause efficiente de l'être. Il n'y a qu'une cause formelle et finale. Alors, il n'y a pas de cause matérielle de l'être. On l'a déjà vu. Pourquoi? Parce que la matière est pure puissance. Et la puissance, au point de l'être, est toujours seconde. Elle n'est jamais première. C'est mon imagination qui veut mettre un premier dans l'ordre de la potentialité. Et la potentialité est toujours relative à l'être. Donc, le point de vue de la matière ne peut pas être un principe dans l'être. Il s'agit. C'est très très important, surtout de nos jours, parce que c'est de montrer l'erreur fondamentale du marxisme. L'erreur fondamentale du marxisme, c'est d'avoir voulu faire de la matière un principe d'être. Alors que la matière n'est pas principe d'être et ne peut pas être principe d'être. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours seconde. Elle est potentielle. Elle est radicalement potentielle. Elle demande radicalement d'être transformée par un autre. Donc elle n'est pas première. Et ce qui est plus difficile peut-être à découvrir, c'est que il n'y a pas de causalité efficiente. L'être est au-dessus du mouvement. La causalité efficiente me fait découvrir le mouvement, tout ce qui devient. Or, justement, l'être est saisi comme ce qui est au-dessus du devenir. Ce qui est, qui est donc quelque chose de fondamental, de plus profond que tout devenir. Le devenir dans l'ordre de l'être est toujours second et n'est jamais premier. De sorte que il n'y a pas de recherche de ce qu'est le devenir au point de vue de l'être. L'être a sa finalité propre. La finalité comme telle n'implique aucune imperfection. Elle est. Et donc la seconde recherche, au point de vue métaphysique, c'est la recherche de ce qu'est l'être du point de vue acte, du point de vue finalité.